Bonjour Tiffaine, les auditeurs vous retrouvent demain et nous dès lundi.
La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Écrire la peinture est une très vieille histoire qui remonte à l'Antiquité et on attribue à Homère la première de toutes les descriptions d'images en littérature avec celle du bouclier d'Achille. Plus tard, les écrivains sont devenus critiques de peinture avec Diderot ou encore Baudelaire qui ont rendu compte dans un style proprement littéraire des tableaux qu'ils voyaient dans les salons où ils se rendaient. Comment raconter la peinture avec des mots? C'est donc le fil rouge, vous l'avez compris, qui nous guide depuis lundi. Lundi, Pascal de Turin a posé les grands jalons de cette histoire de la représentation de la peinture par les écrivains. Mardi, nous avons pris l'exemple d'Aragon regardant Matisse dans son étrange livre Matisse roman. C'est Olivier Barbaran qui était à ce micro. Et enfin hier, nous avons demandé à un écrivain qui est également un peintre, Tahar Ben Jelloun, d'évoquer l'un de ses artistes favoris, Alberto Giacometti. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, à l'occasion de la sortie de votre livre La Solitude Caravage aux éditions Fayard, nous sommes en votre compagnie. Yannick Hennel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes l'auteur d'une dizaine de romans dans lesquels la peinture, les peintres, les tableaux, les artistes sont souvent très présents. Est-ce que c'est une démarche consciente de votre part ou est-ce que ça découle tout simplement de votre attirance, de votre plaisir à regarder la peinture ?
Oh, c'est les deux, ça fait partie d'un mode de vie et donc j'injecte ça dans mon écriture, enfin dans un précédent roman il y a 10 ans qui s'appelait Cercle. Il y avait un moment des personnages qui étaient confrontés à des tableaux de Francis Bacon, tableaux qui incurvaient leur vie. Et voilà, donc je me balade en littérature avec les poches pleines de reproductions de peinture. Voilà.
Mais toujours dans Cercle, au début de ce roman, hein, qui date donc de 2007, publié chez Gallimard dans la collection L'Infini, il y a aussi des statues de Giacometti que votre narrateur contemple depuis le Pont des Arts, alors qu'il vient de décider de ne plus aller au travail. C'est donc un moment clé de votre livre. Est-ce que vous utilisez cette correspondance, ce rapport aux arts, d'une façon proprement littéraire dans votre narration? Est-ce que ça a une fonction aussi?
Ah ben j'aimerais être capable d'écrire un livre qui est la forme d'un des hommes qui marchent de Giacometti. J'aimerais aussi écrire au moins des phrases qui aient cette torsion de certains tableaux de Bacon, mais bon, ça, ce sont des vœux pieux, enfin, ce sont aussi des bricolages intimes avec soi-même. Ce qui m'intéresse avant tout, c'est le rapport existentiel qu'une œuvre génère, enfin, qu'est-ce que ça nous fait, voilà. Pas seulement du point de vue de l'émotion, mais du point de vue de la métamorphose de soi. Enfin, y a des œuvres qui comptent plus que d'autres dans une vie, et c'est aussi ça que j'essaye de raconter. Enfin, les redents, comme disait Barthes, et les impacts.
Ouais. Alors, il y a aussi une œuvre qui revient plusieurs fois chez vous, c'est le Cavalier polonais de Rembrandt.
Ouais.
C'est un tableau qu'on retrouve dans Tiens ferme ta couronne, publié en 2017, et puis aussi dans Yann Karski, si je ne me trompe.
Absolument.
Pourquoi ce tableau-là est-ce que vous pouvez le décrire un petit peu de mémoire pour
les
éditeurs?
Ah, mais c'est un tableau merveilleux, effectivement. C'est un tableau que je suis allé voir à la Frick Collection à New York, qui représente, et d'ailleurs pendant longtemps on s'est demandé si c'était vraiment Rembrandt, qui représente un jeune homme qui chevauche qui est à cheval, donc un cavalier, dont on voit le profil et sur fond, je dirais, brun rouge, sur fond de quelque chose qui semble être soit une apocalypse, c'est-à-dire soit une espèce de crépuscule de fin de monde, soit quelque chose de neuf qui relève de la lueur. Il se tient d'une manière qui m'a toujours plu, avec le point porter sur sa hanche, comme font certains militaires, certains cavaliers un peu aristocratiques. Et j'ai projeté en lui beaucoup de choses, comme s'il était un éclaireur ou un témoin. Voilà, ce que j'aime dans les tableaux, c'est pas forcément ce que les historiens de l'art peuvent aimer. Ce sont des choses, ce sont des prélèvements, ce sont des choses très subjectives, parfois un détail. Mais dans ce tableau, c'est effectivement ce point serré sur la hanche qui me plaît. Ouais.
Et la description pour vous, en tant qu'écrivain, comment la voyez-vous? C'est une difficulté de parler, alors, de la peinture par exemple, mais aussi de décrire en général?
Oh, mais c'est fondamental pour moi, c'est même un... Vous savez que les Grecs avaient cet exercice qui s'appelle l'ekphrasis. Oui. Et je pense que c'est l'enfance de l'art, au fond. C'est même le cœur de toute littérature. Je pense qu'il s'agit de ça. Il s'agit de s'appliquer à décrire le plus rigoureusement possible ce qui est ou ce qu'on voit. Et je peux dire que la plupart de mes romans sont fondés sur des ekphrasis. Dans Tiens, ferme ta couronne, mon précédent, j'ai même enchaîné, ça m'amusait de faire ça, j'ai même enchaîné des ekphrasis de films. Donc je décrivais Apocalypse Now. Alors j'ai coupé parce que bon c'était trop, mais j'ai décrit dans mes brouillons Apocalypse Now entièrement, séquence après séquence, ou des films de Cimino.
Mais vous les décriviez comment? Parce qu'en même temps, la description de l'écrivain, est-ce qu'elle peut se contenter de dire ce qu'il y a sur une image?
Ben écoutez, c'est pour ça que Deleuze avait écrit deux livres sur le cinéma, l'image-temps et l'image-mouvement. C'est comment est-ce qu'on dialectise ces deux choses? Moi, j'ai fait ça comme une suite de tableaux, au fond. Ce sont des images arrêtées, voilà. Donc, c'est comme si je parlais de peinture quand je parle des films. Et je peux pas m'en empêcher, parce que je pense que la peinture ne va pas sans dire, voilà. Le lieu de figures peintes silencieuses, et ça a beau être une expérience, regarder un tableau, le contempler, qui nous ferme la bouche, qui nous coupe la parole, dans le meilleur des cas, c'est quand même au bout du compte le langage qui peut arriver à dire, non pas le secret d'un tableau, mais ce qui ne s'y déclare pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le lieu intérieur de la peinture. C'est ce qui m'a requis depuis des années dans le Caravage. Je vois bien poindre quelque chose qui relève d'une solitude presque ontologique dans chaque tableau. Enfin, il y a quelque chose qui, bon, je sais pas, on aurait pu appeler ça avant l'invisible. C'est un mot qui demande à être approfondi, mais voilà, le visible ne va pas sans dire.
Pour terminer sur le rapport de l'écrivain à la description, est-ce que c'est aussi par la métaphore qu'on arrive à faire, par l'écrit, la description de quelque chose qu'on voit?
Oui, c'est-à-dire que la métaphore, comme vous savez, ça signifie transport, enfin déplacement. Je pense qu'effectivement, il y a un moment où l'ekphrasis, enfin le commentaire, fût-il le plus rigoureux possible, ne parvient plus à dire, et on est obligé de trouver d'autres mots et d'adopter un autre point de vue qui finalement est subjectif. Voilà, c'est par le plus de subjectivité que peut-être on parvient à dire quelque chose qui se dérobe à l'intérieur du tableau.
Vers 15 ans, j'ai rencontré l'objet de mon désir. C'était dans un livre consacré à la peinture italienne. Une femme vêtue d'un corsage blanc se dressait sur un fond noir. Elle avait des boucles châtain clair, les sourcils froncés et de beaux seins moulés dans la transparence d'une étoffe. À cette époque, j'étais enfermé au Prytané militaire de la Flèche. Et mes seuls instants de plaisir avaient lieu lorsque j'étais seul, entre 16 et 17 heures, à la bibliothèque. C'est là qu'une fin d'après-midi, j'étais tombé sur cette femme. Il y avait, derrière elle, un rideau en velours bordeaux roulé sur lui-même, qui a longtemps figuré dans mes rêves. Une lumière blanche tombait violemment sur son beau visage grave, et tout son corps, surgi du noir, se jetait en avant, bras tendus, la poitrine dressée comme une apparition qui déchire la nuit. J'étais si obsédé par sa gorge triomphante, comme le dit Baudelaire à propos d'une autre enchanteresse, que je croyais son buste entièrement nu. En fixant son chemisier humide de sueur, je devinais la pointe durcie de ses seins. L'éclair brûlant des voluptés courait à travers ce tableau rouge et noir. Le corps de cette femme m'ouvrait à un avenir sensuel.
La compagnie des auteurs et les premières lignes de votre livre, Yannick Enel, La solitude Caravage, qui est à la fois un essai et aussi, on vient de l'entendre, un récit.
Oui, c'est-à-dire que la question qui se posait à moi quand j'ai voulu écrire sur le Caravage, c'est celle de la légitimité. Je pense que c'est une question qui se pose constamment en littérature. La littérature n'est pas fondée sur une quelconque légitimité, contrairement à d'autres disciplines, contrairement aux sciences, voilà. Et chaque écrivain refonde la littérature, je le dis, à la fois avec extravagance et modestie. On doit tout reprendre à zéro depuis le début. Et donc, je me disais, a fortiori pour quelque chose qui relève d'un travail sur la peinture, je me suis dit que la seule solution pour moi, c'était d'y mettre mon expérience. Voilà. Donc c'est un essai, mais qui est précédé d'une cinquantaine de pages, qui relève plus du récit d'apprentissage. Donc c'est un récit d'apprentissage qui se transforme en quête de la peinture. Voilà.
Donc ce récit, il faut en parler un petit peu, ça commence au moment de votre adolescence, quand vous pensiez donc avoir rencontré l'objet de votre désir, hein, c'est ce qu'on a entendu dans l'extrait, à la bibliothèque du Prytanée militaire de La Flèche. Vous regardez ce livre consacré à la peinture italienne et vous avez eu donc le coup de foudre pour l'image d'une femme vêtue d'un corsage blanc. Et cette image, ça a été l'amour de vos 15 ans. Et à cette époque-là, vous ne vous souciez pas de savoir que c'était le Caravage qui l'avait peint.
Absolument. D'ailleurs, j'avais complètement oublié. C'était sans doute écrit sur ce livre qui n'était pas non plus un très bon livre. C'était un détail et qui avait effectivement appelé mon regard. C'était en noir et blanc en plus, donc vous imaginez la qualité. Mais quand même, pour le dire avec les mots de Lacan, j'avais rencontré l'objet de mon désir. Mmh. Et il se trouve que je n'imaginais pas ce que cette femme était en train de faire.
Enfin, on voit quand même sur son visage une forme de tension, une expression peut-être de haine ou de dégoût qui, malgré tout, ou peut-être à cause de cette expression, vous plaisait.
Mais alors, ce qui m'a plu, c'est le froncement de ses sourcils qui rimait, enfin, on le voit très bien en regardant le tableau du Caravage, qui rime avec un autre froncement, c'est celui des lacets qui serre de manière presque violente son corsage et qui fait bomber sa poitrine. Et ce froncement de sourcil, effectivement, témoigne d'une préoccupation, effectivement, au bord du dégoût, de la réticence. Manifestement, elle est en train de faire quelque chose.
Elle est dans l'action.
Ouais. Elle est dans l'action. Mais sur ce détail, enfin, quand j'ai vu ça à 15 ans, c'était coupé. Enfin, on voyait.
C'est la question du cadrage.
Exactement. Et là aussi, c'est le cadrage, le désir. Enfin, tout ça a créé pour moi un petit scénario romanesque au fond. Où j'ai peu à peu pu négocier avec ce qu'on appelle la vie érotique. Enfin. Et voilà, il manquait quelque chose, comme toujours, enfin, à l'objet du désir. Il manque toujours quelque chose, paraît-il. Et ben là, il manquait ses bras. Et 15 ans plus tard, après 15 années, et donc ses mains, après 15 années d'obsession érotique, je pense que pour moi, la peinture est restée un lieu aphrodisiaque, voilà, un lieu qui suscite du désir.
C'est d'abord ça pour vous ?
Je peux pas m'en guérir de ça, et finalement c'est pas si mal, parce que du coup regarder des tableaux, ça continue pour moi à être une activité qui n'est pas simplement contemplative, c'est ça me met dans tous mes états, enfin je veux dire par rapport à des peintures que j'aime, c'est-à-dire Delacroix, Van Gogh, j'aime les peintres violents, voilà.
Et du coup l'abstraction ne vous touche pas ?
Pas tellement. À cause de ça, parce que je n'arrive pas à y loger quelque chose qui relève de l'étincelle sensuelle. Effectivement, Pollock, je vois bien, j'aime Pollock, mais je pense que ça n'a pas bouleversé ma vie et c'est un peu trop tard maintenant. Que ce soit des figurations déclarativement érotiques, comme ce qui a lieu dans ce tableau du Caravage, ou même des natures mortes, je peux être bouleverser érotiquement dans la par une corbeille morte. De fruits. Oui, oui. Bah, voilà, c'est l'épiderme est partout, la peau est partout. Voilà, c'est quand même la grande chose de la peinture, c'est nous faire sentir par des pigments ce que c'est que la peau.
Alors, vous avez grandi suite à cet amour que vous avez ressenti quand vous étiez adolescent au Prytanée de la Flèche. Et pour vos 30 ans, vous avez décidé qu'il fallait aller voir ce tableau. Alors, c'est peut-être un cadeau d'ailleurs quand vous avez fait ce voyage en Italie à
oui,
Rome.
Oui, alors c'était pas pour voir ce tableau parce que je savais pas où il était. Je savais toujours pas. Je n'avais pas oublié Judith. Hein. On n'oublie pas son premier amour. Mais je crois que je ne savais pas que c'était le Caravage. Vous voyez, j'étais tout à fait... Je ne sais pas si c'était par ignorance, mais c'était... Voilà, je ne savais pas. Et bref, effectivement, on m'invite aux vacances de Pâques à Rome et je tombe au Palazzo Barberini sur ce tableau, cette fois-ci en entier. Et donc, je reconnais immédiatement cette Judith et je vois enfin ce qu'elle est en train de faire, ce qu'elle a au bout des bras, ce qu'elle tient dans la main.
C'est-à-dire
une épée. Elle est en train de trancher la tête d'Holoferne, puisqu'il s'agit d'une composition que le Caravage a, enfin qui a été inspirée au Caravage par le livre de Judith dans la Bible. Donc Judith délivre la ville de Béthulie, la ville juive de Béthulie, de ses assaillants assyriens.
On racontera peut-être si on a le temps justement cette histoire. Donc vous êtes avec une femme à ce moment-là et vous lui dites ben voilà, ça c'était mon premier amour dont je t'ai parlé si souvent.
Oui. À tel point, oui, ça relève de la comédie intime de chacun, mais je trouvais amusant de le raconter, de le mettre en relief, à tel point qu'au fond, j'avais peut-être aussi inconsciemment, je m'étais mis à aimer cette femme parce qu'elle ressemblait à Judith. Et donc face à ce tableau, cette jeune femme se rend compte avec horreur que de ce qu'il y avait dans mon désir. À savoir que j'aimais une tueuse, au fond, et que...
Mais peut-on le voir avec le cadrage uniquement sur son visage? Enfin, il y a une multitude d'interprétations qu'on peut donner à l'expression de Judith si on ne voit pas qu'elle est en train de tuer Holoferne.
C'est-à-dire qu'on peut effectivement fantasmer très librement sur ce qu'elle est en train de faire. Mais maintenant, effectivement, une fois qu'on a vu le tableau, c'est un tableau tout à fait inoubliable, enfin, d'une violence quasi inaugurale. Et ce visage, pour moi, est empreint de ce crime, qui est aussi un crime salutaire. Enfin, c'est un crime biblique qui délivre un peuple. Et je sais pas, mais évidemment, les noces d'Eros et Thanatos, enfin, le fait qu'il y ait de la mort dans le désir, je vais pas vous apprendre. Enfin, tout le monde sait ça au fond. Mais moi, ma nigauderie faisait que. À 15 ans, je n'y avais vu que du feu, au fond. Quelque chose s'allumait très loin du crime. Et je pense que l'érotisme est aussi la chose qui nous délivre, en fait. Peut-être pas du mal, mais au moins de la criminalité de l'espèce humaine.
Et donc vous racontez comment cette femme est partie, a quitté le musée, vous a laissé seul devant le Caravage.
Oui, je dois dire qu'il y a des moments comme ça révélateurs, au fond, dans une vie et qui sont plutôt comiques et tragiques en même temps. Et voilà, devant le Caravage, j'ai été quitté.
Le fait même de peindre devient le lieu d'un combat et d'une protection contre l'effroi et contre la folie et peut-être même contre une société qui le harcèle, qui l'embarrasse, qui le harcèle. C'est-à-dire qu'au fond, même si on garde la vie de Caravage, le fait d'avoir été peintre, vie largement commentée, hein, d'homme turbulent, transgresseur, presque une image un peu romantique hein, de cette vie, qui est sans doute un peu forcée, mais qui semble nous dire qu'il s'agit d'un homme qui est dans une sorte de transgression et qui sans arrêt se sort des pires impasses. Il finira par mourir, hein, comme Pasolini quasiment. Il se sort des pires impasses comment ? Par la protection. Et la protection comment ? En faisant de la peinture. Autrement dit, son rapport à ses protecteurs et commanditaires font de son talent de peintre déjà un bouclier par rapport à la mort qui le menace, ou par rapport aux transgressions qu'il opère. Et du même coup, cette peinture bouclier me paraît surdéterminée comme protection.
archive de Marie-Josée Monzin dans Une vie, une œuvre en 1998. Alors parlons un peu, Yannick Haenel, si vous le voulez bien, de la vie du Caravage. On peut peut-être commencer en se demandant si, comme le disait Marie-Josée Monzin, le Caravage était protégé par sa peinture. Ça vous semble juste comme idée ?
Oui, ça me paraît bien. J'ai aussi envie de dire le contraire. C'est pas par mauvais esprit, mais... Peut-être que la peinture était aussi pour lui le lieu du péril, le lieu où il va approcher ce qu'il ne cesse de dépenser, c'est-à-dire ce fond noir où on rencontre la mort. Enfin, c'est le peintre qui, comme vous savez, qui a peint la tête de Méduse sur un bouclier, c'est-à-dire qui s'approchait le plus près possible de la fossilisation, de ce moment où plus rien ne prend, enfin où on ne peut plus peindre. Je pense qu'il s'est beaucoup risqué dans sa peinture. Alors, ce que dit Marie-Josée Monzin est très beau. Effectivement, s'il n'avait pas peint, cet homme serait mort dans une de ses batailles. Enfin, c'était un homme irascible.
C'est un petit bataillé. Peu ce qui lui est arrivé quand même.
Absolument, à 39 ans, à force de se battre, effectivement, il est mort d'une infection, enfin, en essayant de rattraper un navire en route vers Rome, où il y avait ses tableaux. Mais la peinture est quand même le lieu où effectivement, protection et péril se rencontrent. C'est irrésolvable, ces choses-là. Enfin... Je pense que pour un peintre aussi intense et qui ne cherchait qu'une chose, c'était d'intensifier encore plus sa vie, pour un peintre aussi intense que le Caravage, la peinture est encore un accélérateur de danger et d'urgence.
C'était un aventurier.
Oui, on peut le dire, oui.
Au sens peut-être où l'entendait Guy Debord, c'est-à-dire pas quelqu'un à qui il arrive des aventures, mais quelqu'un qui provoque les aventures.
Fait arriver, exactement. Bon, je pense que c'est quelqu'un qui avait une soif hors du commun, enfin, qui ne se satisfaisait de rien, ni de personne, et qui a cherché constamment dans l'invention géniale. Enfin, on se demande même comment. Moi, j'ai cherché au fond à savoir comment il a bien pu se former. C'est quelqu'un qui voulait aller plus loin que Michelangelo. Donc, c'est quelqu'un qui a vraiment rompu. L'un des premiers avec la Renaissance, au sens où, pour lui, l'harmonie des corps était une fadaise. Enfin, ce qui était en train d'arriver au début du XVIe siècle, d'où l'invention de ce grand fond noir, d'où surgissent des figures peintes comme émanant d'un rêve ou d'un cauchemar. Pour lui, c'était un obscurcissement, je dirais, métaphysique. Moi, j'ai tendance à penser que le Caravage, c'est un peintre, très... Ça pense dans le Caravage, sa peinture pense, c'est un peintre pas seulement pittoresque comme on a voulu, on l'a un peu plombé pendant
c'est
des siècles.
C'est pas un peintre réaliste, enfin il est réaliste, voilà, il va au-delà simplement montrer.
Dans son cas, quand on dit ça, c'est comme si on n'avait pas dit grand-chose finalement. Effectivement, c'est l'un des premiers à ramener des ragazzi de la rue, des prostituées, et à les mettre sur un tableau, à leur faire jouer les grands rôles de saints, de saintes.
Mais il les déguise aussi, où il n'est pas tout à fait réaliste.
Absolument, moi je pense qu'il y a une discordance très étrange. Enfin, dans ses premiers tableaux, il place des jeunes hommes un peu dénudés, en leur faisant jouer le rôle de Bacchus. Il leur met comme ça des raisins ou des feuilles de vigne sur la tête. Et il y a une espèce de provocation quasi anarchiste. C'est comme s'il faisait des bras d'honneur aux acheteurs et aux autres peintres. Enfin, ce sont des tableaux tout à fait inouïs, dont l'ambiguïté sexuelle est très déclarative. Enfin, ce sont des affirmations de présence. C'est comme si le Caravage disait « Maintenant, je suis là, c'est moi. Et en plus, allez vous faire foutre. »
Et pour vous, il est l'un des premiers peintres à montrer réellement la vie moderne, à faire entrer réellement, c'est un peu ce que vous dites là, justement, la vie dans toute son ambiguïté dans ses tableaux.
Ben, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans l'esthétique du Caravage, on n'est plus du tout dans quelque chose qui relève de l'artifice, je dirais, religieux, habituel, sur fond éthéré. C'est plus décoratif. Il y a vraiment un acte. Quelqu'un comme Michael Fried, un grand historien d'art, a très bien vu ça chez le Caravage. Chaque peinture est performative, enfin, elle déclenche quelque chose. Elle est secrètement satirique. par rapport à toute l'histoire de l'art. Le Caravage était très 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 informé de tout ce qui s'était peint. Et elle produit, notamment dans ses peintures sacrées, elle produit des déplacements dans la représentation de l'Évangile qui sont inouïs. Moi, on n'a jamais vu des torses du Christ comme ça. Enfin.
Donc la vie rentre vraiment profondément dans la peinture. Il faut dire que sa vie a lui été mouvementée. Il faut peut-être raconter un petit peu l'histoire du duel quand même, qui est assez extraordinaire et qui va signer le début de la fin du Caravage.
Oui, d'autant que ça a à voir avec ma Judith, je dis ma en rigolant évidemment. En 1606, effectivement, il y a un duel avec un certain Ranuccio Tommasoni sur le champ de Mars. Ce Ranuccio était issu d'une très bonne famille, il a été beaucoup protégé à Rome, mais il se trouve que c'était aussi un vulgaire proxénète, voilà, il faisait partie d'une milice de quartier, et il était notamment le souteneur de Philidé Melandroni, qui est le modèle de la Judith qui pose pour le Caravage dans Judith et Holoferne.
C'était donc une prostituée que vous admiriez aussi.
Absolument, je l'ignorais. Et bon, écoutez, c'est très bien. Enfin, et y a une bataille entre deux. On a dit que c'était une querelle de qui portait sans doute sur une dette d'argent ou peut-être une tricherie au jeu de paume. Moi, je pense, et les derniers travaux de spécialistes italiens tendent à dire qu'au fond l'enjeu c'était cette femme. Au fond.
Ouais. Parce que c'est pas quelque chose d'aussi trivial que d'avoir gagné ou perdu au jeu de paume, comme on peut le penser, comme on a pu le croire.
Bon, ces deux-là, le Caravage et Tommasoni, étaient très belliqueux, très irascibles. Ils étaient un peu le miroir l'un de l'autre au fond. Mais franchement, aller s'entretuer pour trois fois rien. Non, je pense qu'il y a cette femme entre eux. Et vous voyez, je pense que après avoir posé trois ou quatre fois pour le Caravage, cette femme ne pouvait plus, pouvait plus rester à la rue avec un souteneur. Enfin, elle était quelqu'un d'autre. Elle était devenue de l'art. Je pense que Tommasoni le lui reprochait au Caravage constamment. Ces deux-là se sont battus plusieurs fois. Bref, le Caravage tue Tommasoni et va devoir les quatre dernières années de sa vie vivre en exil.
On va continuer à parler de ça justement avec vous, Yannick Hennel. Vous restez avec nous. Pour l'heure, c'est le moment de retrouver la chronique de Nathalie Frolov.
La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Nathalie Frolov, professeure de lettres en classe préparatoire à Louis le Grand et chroniqueuse régulière le jeudi de la Compagnie des auteurs. Bonjour Nathalie.
Bonjour Mathieu.
Aujourd'hui, vous nous parlez de l'écrivain, éditeur Denis Roche et de la photolittérature.
Oui, la figure entêtante de Judith à son retour dans le livre de Yannick Hennel, Entre présence et absence, m'a mené à une autre figure, photographiée cette fois-ci, la femme de Denis Roche, Françoise, qui hante son œuvre photographique. Denis Roche fait partie de l'aventure de Telle qu'elle. Il est d'abord poète, comme en témoigne son très beau recueil Héros et Nergumènes. Mais il clôt son œuvre poétique de manière définitive au début des années 70 et commence à exposer ses photos, alors même qu'il dirige la collection Fiction et compagnie au Seuil. Dans un livre d'entretien avec Gilles Mora, Denis Roche évoque cette nécessité qu'il a ressentie comme une révélation panique de prendre des photos de celle qui deviendra sa compagne, la compagne de sa vie, Françoise. Donc ces photos représentent en fait la volonté de retenir le temps perdu, l'impression qu'il fallait courir après lui. Et donc il parle de répétition, de marquage temporel dans les légendes des photos pour justement se souvenir de ce temps qui fuit. La photographie est donc pour lui le signe d'un manque, d'une béance, ce qui, dans les faits, n'a aucun rapport pour lui avec sa pratique d'écrivain. Mais la photographie lui permet de garder une trace de l'endroit, justement, où celui-même qui tient l'appareil photo se tient, en fait. Et c'est ainsi qu'il va faire toute une série de photos à Pont de Montvert, qui représente Françoise sur un petit muret qui surplombe un cimetière. C'est un petit village au bord du Tarn. La première photo est prise un peu par hasard, c'est une photo souvenir, 1971. Mais les suivantes, qui jalonnent, en fait, tous les 10 ans, la vie de Françoise et de Denis Roche, déploient, au contraire, ce troublant passage du temps. Et Denis Roche dit que ce n'est pas Françoise qui a changé, c'est le cimetière en contrebas, donc ce n'est pas la vie qui n'est plus la même, c'est la mort. Et dans ces deux pratiques, l'écriture et la photographie vont aussi finir par se rejoindre pour créer ce que Jean-Pierre Monthier a appelé la photolittérature, en particulier dans le boîtier de Mélancolie.
Et alors, un peu comme Yannick Quesnel a trouvé un langage pour parler du Caravage, on peut dire que Denis Roche a lui proposé des textes courts pour parler de photographes qu'il a choisis.
Oui, comme Valérie s'interrogeait dans Degas dans ce dessin sur comment parler peinture, Denis Roche va ici s'interroger sur comment parler photographie. Le boîtier de Mélancolie est publié en 1999 chez Hazan et en fait il offre une histoire de la photographie assez étonnante parce que bien sûr il y a un panorama saisissant de cette technique depuis sa naissance en 1826. Mais ce livre est pourtant bien plus qu'une succession de photos choisies avec soin, accompagnées d'ekphrasis, de descriptions ou de contextualisation des photos. En fait, les photos sont placées sur la page de droite et elles n'élaborent pas vraiment un catalogue de documents mémorables, comme le soulignent les textes qui sont écrits en regard et dans l'ordre chronologique des photos. Je prends deux exemples. Celui du portrait de la comtesse Greffull, qui est photographié par Paul Nadar et qui sera immortalisé sous les traits de la duchesse de Guermantes par Proust. Denis Roche évoque le plaisir de la rédaction de ce livre en regard et le bonheur extrême de la solitude de l'écrivain et du photographe. Il a retenu cette photo, il reconnaît qu'elle n'est pas très jolie, mais il l'a retenue parce qu'en fait elle fait douter du passage du temps, comme si le grain de la peau si laiteux de cette femme semblait s'animer devant nous, tout comme son regard, miroir de tous les regards qui ont été fascinés par elle. La seconde photo qui m'intéresse, en fait, c'est l'envers de cette première photo. C'est celle que Raoul Haussmann prend d'une femme nue en 1931 sur les plages de la Baltique. Denis Roche, dans son texte, entremêle description, fulgurance poétique. Il tâtonne, il utilise un vocabulaire très abstrait. Et on voit que par là même, il écrit ce que la photo dit et ne dit pas. C'est-à-dire une forme géométrique du corps qui trace un Y. Elle est très étonnante, cette photo, en fait. C'est comme un nouvel alphabet pour lire le monde. Ici, on a donc une fusion de la littérature et de la photographie, comme si pour Denis Roche, il s'agissait de regarder et de photographier un corps. En fait, c'était un peu la même chose, et de l'écrire aussi. C'est se poser ce qu'il appelle la question de l'introuvable. Il en parle dans La disparition des Lustrioles. Il n'y a jamais, il dit, de répétition générale quand on veut photographier et parler d'un corps. Et c'est cette absence même qu'il décrit comme l'amour fou. C'est extraordinaire, il y a cette expression qui suscite de manière métaphorique. L'amour fou, c'est la compréhension, la répétition, la suspension. Et c'est ce qui fait dire à Proust, que cite Denis Roche, « Sous toute douceur charnelle un peu profonde, il y a la permanence d'un danger ».
Merci Nathalie, j'ai envie de vous demander aussi si vous avez un tableau préféré du Caravage.
Ah oui, moi j'aime beaucoup, c'était un petit peu comme votre Judith, je ne savais pas du tout qu'il était du Caravage au départ. C'est la Madone des Pèlerins dans l'église Sant'Agostino à Rome, qui est, je trouve, extrêmement humaine. C'est très étonnant, c'est pareil, on a l'impression qu'on va la toucher, qu'elle va s'animer devant nous.
Donc c'était un choc esthétique aussi pour vous. Merci beaucoup Nathalie Frolov, à très bientôt. C'est la compagnie des auteurs que vous écoutez sur France Culture au dernier jour d'une série qui cherche les rapports entre peinture et littérature. Nous sommes avec l'écrivain Yannick Quesnel pour parler du Caravage, ce grand peintre du clair-obscur.
On a le sentiment, en regardant les dernières toiles, que la couleur ne peut plus se lever et qu'une sorte de lassitude extrême vient enténébrer les toiles et que l'excès dans lequel le Caravage a vécu et peint aboutirait à une sorte d'épuisement et il y a une sorte de grande fatigue des dernières toiles et évidemment bon, ça, il est mort dans des conditions un peu mystérieuses, mais je ne sais pas ce que serait devenu cette peinture. On a l'impression qu'elle était en train de se fermer. C'est comme un œil qui se fermait.
L'écrivain Guy Walter au micro d'Alain Weinstein. Alors cet œil qui se ferme, c'est peut-être, Yannick Quesnel, l'évolution du Caravage vers de plus en plus de noir dans ses tableaux. Ce noir, qu'est-ce qu'il signifie pour vous ?
Je pense tout de suite à l'expression de Daniel Arras, on n'y voit rien. C'est le propre de la peinture, c'est ça qui est beau. Enfin, je ne sais pas si c'est un seul œil qui se ferme face à l'intensité intérieure de ce noir. C'est d'ailleurs le Caravage dans un de ses derniers autoportraits avec la tête coupée, jouant Goliath, tenu fermement par David, a un œil éteint, un œil mort. Je crois que ce fond noir, enfin je ne sais pas au fond, j'aurais aimé consacrer tout le livre à cette signification déferlante du noir, mais ce fond noir n'est pas seulement celui de la mort et de l'assombrissement de la vie du Caravage et de l'assombrissement cosmique au fond, de ce qui est en train d'arriver au monde occidental. Mais c'est ce que Derrida appelait la vérité en peinture. C'est comme si ce noir animal, enfin, émanant d'ossements concassés, rendait chaque pigment à ce qu'il en est de la précarité de l'existence. Je pense que ça nous saute aux yeux quand on voit des toiles du Caravage, mais le fond même, quasi respiratoire, syncopé, du rapport entre le Caravage et de sa révolution picturale, c'est le noir, plus que le clair-obscur d'ailleurs. Je pense que le lieu intérieur de sa peinture est quelque chose entre lumière et ténèbres, où étrangement le noir va être un lieu, pas seulement de la fermeture, mais aussi d'une porte qui s'ouvre. Dans les tableaux dont parlait Guy Walter merveilleusement, et son livre est très beau sur le Caravage, il s'agit vraiment à la fin d'une résurrection, enfin, de Lazare, enfin.
Parce que le noir du Caravage, ça n'est pas que le noir des ténèbres, me semble-t-il. Enfin, c'est aussi un noir très accueillant, très luxueux, très profond, très beau plastiquement. Il y a ça quand même aussi, non?
Mais c'est ce que je pense, au fond, il y a ce noir qu'on va retrouver chez Delacroix. C'est un noir qu'il n'y a pas chez Poussin, par exemple, mais chez Delacroix, je ne sais pas, évidemment, chez Soulages. Mais c'est vraiment le fond extatique de l'être. Enfin, on est dans, pour le dire à la manière de Heidegger, on est vraiment dans l'extatique du Dasein. Enfin, c'est quelque chose qui relève de la couleur du temps. Enfin, ce noir, effectivement, je pense comme vous, qui ne relève en rien du négatif. D'ailleurs, le néant n'est pas de la négation. Là, les figures peintes du Caravage ont cette vélocité sensuelle de s'arracher sur fond de néant. Voilà, il y a que Rembrandt peut-être qui a autant été travaillé par du noir.
Et vous voyez Dieu à l'œuvre dans tout ça, parce que vous parlez énormément du sacré, ouais, pour Caravage, qu'on a tendance à voir quand même d'abord comme un voyou. Alors
aussi,
c'est le diable ou c'est Dieu qui est dans son
voyou.
Bien sûr, mais qu'est-ce qui prédomine?
Alors ça, c'est une grande question. Effectivement, en écrivant ce livre, je ne pouvais pas ne pas être approfondi moi-même par ce que j'essayais d'approfondir, à savoir le spirituel à l'œuvre chez le Caravage. C'est quand même quelqu'un... J'ai fait une expérience très concrète, à savoir qu'en allant voir les tableaux dans lesquels il se met en scène, notamment des tableaux religieux, l'arrestation du Christ qui est à Dublin, ou la résurrection de Lazare, je me suis rendu compte qu'au fil des années, la distance entre lui, le Caravage, et son autoportrait dans le tableau, et Jésus, cette distance amenuisait. C'est une question décisive, enfin, c'est pas pour rien. À la fin de sa vie, il est plus qu'à quelques centimètres du Christ. Dans ce tableau...
Même s'il ne sait pas que ça va être la fin de sa vie.
Alors voilà, c'est évidemment le problème toujours. Mais il n'empêche qu'il y a il y a quand même une évolution spirituelle du Caravage. On serait tenté aujourd'hui de dire que voilà quelqu'un qui était nécessairement athée, vu son comportement vis-à-vis de ce qu'on appelle le péché. Mais sa piété était très intense également. Il a une connaissance des évangiles qui est stupéfiante, hein, qui est très précise, notamment grâce à son protecteur, le cardinal Del Monte. Et bon, voilà, sa peinture ruisselle je vais pas dire d'annonciation, faut pas exagérer, mais ruisselle d'un rapport physique avec le sacré, un rapport sexuel avec le spirituel.
Et ce rapport physique, il passe par la peinture des pieds beaucoup, ouais, parce que tous les pieds, ou presque, peints par le Caravage sont des pieds sales, donc des pieds qui évoquent ces gens qui ont traîné finalement pieds nus dans la rue. Et alors Lacan en a fait toute une analyse dont vous parlez dans votre livre sur ce que signifie le rituel pour les chrétiens, que le lavage de pieds. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot?
Oui, c'est très beau ce que vous disiez, Nathalie, concernant la Madone des Pèlerins. C'est un tableau merveilleux. On voit les pieds sales d'un couple, un vieux monsieur et une dame qui s'agenouillent devant la Vierge, et elle-même est pieds nus. Et ça fait scandale à l'époque. Bon, en plus, tout le monde reconnaissait la prostituée, Léna. Mais les pieds, c'est évidemment... en tant que tel, ce qui s'approche au plus près de la terre et, du point de vue des béatitudes, du point de vue de l'Évangile, du Christ lui-même, dans l'humilité qui est offerte, dans la dénudation. Le Caravage est quelqu'un qui va mettre en rapport cette pureté des pieds nus avec l'impureté même d'exister, avec la saleté existentielle. C'est pas seulement qu'on est dans la rue du coup, mais on est aussi dans quelque chose qui relève d'une spiritualité qui pour le coup s'incarne au fond chez les pauvres. Enfin, vous savez, le Caravage était très travaillé par saint François d'Assise, qui l'a peint 3 ou 4 fois, et également par saint Philippe de Néry, donc par une spiritualité très très simple qui relève du message le plus proche des, encore une fois, des béatitudes du Christ. Et donc pour lui, les pieds sales, c'est quelque chose comme une sorte d'auréole, mais d'auréole d'en bas.
Mais là, en revanche, l'intensité physique, sexuelle, la violence du désir, oui, tout ça, c'est très, très... ça vient constamment interrompre, dans une certaine mesure, la représentation. Je crois que c'est une peinture aussi de l'interruption, du mouvement, la plénitude du mouvement et du désir, et en même temps de sa suspension. Et ça, je trouve que c'est vraiment magnifique. Il y a une sorte d'interruption aussi de la langue, si je puis dire, dans ce qu'il peint. C'est-à-dire, il nous raconte des scènes bibliques, et en même temps, c'est comme si cette parole-là était habitée par une aphasie, par un mutisme, par une stupeur, par une stupéfaction, quelque chose de sidérant qui est de l'ordre sexuel, je crois. C'est une sidération devant le corps vivant. Et je trouve que c'est très, très touchant. Et que face à ça, avec son écriture, on est très pauvre. Donc, mais cette pauvreté-là, c'est la seule richesse qu'on ait, parce que c'est une sorte de nudité. Enfin, on est nu devant lui, et comme lui-même était nu devant la vie.
La compagnie des auteurs, une sidération devant le corps vivant, disait Guy Walter, et on pourrait rajouter devant les pieds sales, puisqu'il y a aussi quelque chose de l'ordre de la sensualité et de l'ordre de l'indécence, de montrer justement cette partie vulgaire de l'anatomie dans un tableau qui, vous le disiez, Yannick Enel, est un tableau religieux. Sur la question de la représentation du corps, on tourne autour de ça quand même depuis le début de cette émission. Il a surtout peint des garçons, mais pas seulement. Il y a aussi la Judith que vous aimez particulièrement, Yannick Enel. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur la représentation des corps chez le Caravage?
Ben écoutez, je pense qu'il n'y a pas de corps plus sexué en peinture que ceux qui sont offerts et sortis du noir, justement, du néant, que ceux qui sont offerts dans les tableaux du Caravage. Les garçons tels qu'ils sont peints, en tous les cas au début, dans la première période du Caravage, ceux qui sont grimés, disons, en Dionysos, enfin en Bacchus, sont des corps qui ne sont pas domptables. Moi, ce qui me frappe, c'est la très grande liberté affirmée dans les corps qui ne sont jamais au repos. En fait, les corps féminins, à part Judith qui est en train de cisailler une gorge, les corps féminins sont au repos. La Madeleine pénitente en train de, il y a une très belle larme qui lui coule. Elle vient d'enlever ses bijoux. Sainte Catherine d'Alexandrie est quasiment dans une extase immobile, mais les corps des garçons sont toujours peints dans une action alors inachevée, comme dit très bien Guy Walter, mais une action qui est toujours au bord de quelque chose qui est en train d'avoir lieu, une blessure, une coupure. Moi j'y vois l'interruption de l'acte sexuel. Enfin, c'est-à-dire il y a quelque chose comme un, il y a toujours le pinceau du Caravage qui est là. Vous savez, il y a ce tableau qui s'appelle l'Incrédulité de Saint Thomas, qui est un tableau absolument stupéfiant, où Saint Thomas va pointer son doigt dans la plaie du Christ pour vérifier s'il est bel et bien ressuscité. Mais il s'agit d'autre chose. Enfin, il s'agit d'essayer de toucher le fond de la matière même de la peinture. Et ce doigt, ce bras de Saint Thomas, c'est le pinceau du Caravage lui-même qui cherche ce que vous appeliez, Nathalie, avec Denis Roche, l'introuvable. Enfin, l'introuvable est sans doute le lieu même de cette peinture. Alors voilà, des corps débridés, des corps en mouvement, et un introuvable qui est là, qui suspend le désir et le relance.
Et donc la femme qui, elle, est dans l'action, c'est Judith. Oui. Vous le disiez, Yannick Hennel. Peut-être faut-il redire justement quelle est l'histoire de Judith, même si on a commencé déjà à en parler. C'est donc cette héroïne juive qui va sauver son peuple, sa ville de Béthulie, qui était assiégée par l'armée d'Holoferne, le général de Nabucodonosor. Et c'est donc cette veuve nommée Judith qui va décider de s'introduire dans le camp des Assyriens, de faire boire Holoferne, et donc de lui trancher la tête. Et le lendemain, donc les Juifs suspendent cette tête sur leur mur pour évidemment effrayer l'ennemi. Alors cette histoire avait captivé un grand écrivain dont vous parlez aussi dans votre livre, Yannick Hennel, c'est Michel Léris. Il en a parlé dans L'âge d'homme, et j'aimerais que vous nous disiez un petit peu le rapport que vous avez justement avec Michel Léris, regardant lui-même cette histoire, et comment ce rapport a pu évoluer au fur et à mesure de votre vie, Yannick Hennel.
Oui, je mets en scène le livre L'âge d'homme de Léris dans le texte de manière un peu comme ça cocasse. Moi, quand j'ai commencé à écrire, j'étais obsédé par Léris, Bataille, des forêts, Blanchot. C'est resté pour moi la grande trame de la littérature française et son injonction presque d'avant-garde. Et puis finalement, je dirais 30 ans plus tard, un livre comme L'âge d'homme, et je le dis, c'est horrible ce que je vais dire, mais a fini par m'agacer, notamment dans sa...
C'est l'époque qui a changé aussi.
L'époque a changé, et puis ce théâtre SM, il s'agit de ça, enfin, il s'agit vraiment de masochisme, concernant les figures de Lucrèce, de Judith, au fond, je sais pas, ça me parle pas. Enfin, en relisant L'âge d'homme, c'est un livre extraordinaire.
Ça vous parle plus. Voilà. Vous avez changé, vous aussi.
Eh, j'ai grandi, peut-être, je sais pas. Ou je me suis affaibli, je saurais pas dire. Mais toujours est-il que la description qu'il donne, enfin, le rôle qu'il fait tenir à Judith dans sa vie, mais absolument étranger. C'est-à-dire un peu comme la femme et le pantin, vous voyez, on se met à genoux devant une femme qui nous fait du mal. Et donc, comme ça, je raconte dans le livre qu'en allant voir une merveilleuse exposition à Milan, il y a 2 ans, qui s'appelait Dentro Caravaggio, il y avait 25 tableaux, en faisant la queue pendant 3 heures, j'avais L'âge d'homme, que j'ai relu, donc, comme ça. Et à un moment, j'étais pris d'une passion négative, et j'ai balancé le livre de Léris à la poubelle, sous les regards stupéfaits des gardiens italiens. Et pour moi, il s'agissait aussi d'un acte très symbolique, c'est-à-dire d'accéder au Caravage, sans peut-être le poids de certains maîtres littéraires, enfin, qui ont beaucoup compté pour moi, peut-être pesé aussi. Et puis d'éclater de rire comme un voyou caravagesque. Enfin, c'était très théâtral. Et voilà,
je
me suis débarrassé.
La gardienne du musée a beaucoup ri de vous voir jeter ce livre à la poubelle. Ouais.
Ouais, ouais.
Il y a d'autres écrivains qui ont parlé du Caravage et dont vous vous êtes, si ce n'est inspiré, soit en négatif comme avec Léris, soit en positif.
Ah, mais il y a une bibliographie extraordinaire. Hein. Je cite à la fin, mais il y a notamment quelqu'un, je ne sais pas si je le cite beaucoup dans le livre, qui s'appelle Yves Bonnefoy, qui a pas tant écrit sur le Caravage, mais toujours en bordure, de manière très éclairante, notamment dans un chef-d'œuvre qui s'appelle Rome 1630. Très très grand livre sur, pour le dire vite, sur les caravagesques, disons, mais j'ai cru comprendre, il y a quelques textes sur le Caravage dans l'improbable, je crois, de Bonnefoy, mais j'ai cru comprendre qu'il n'avait jamais réussi à écrire face au Caravage. Et c'est terrible parce qu'on est un peu médusé, justement. Moi, j'avais peur de ça, de cette paralysie. Enfin,
c'est justement la question à la tête de Méduse. Écrire, justement, une peinture voilà. Aussi.
Et La solution au sens chimique que j'ai trouvé, parce que pour dissoudre ce qu'on voit dans des phrases et faire voir avec des phrases, parce qu'il n'y a pas d'image dans mon livre, et je pense parfois que les images empêchent
de voir.
Vous
avez hésité d'ailleurs?
Non, dans cette collection, il n'y en avait pas. Mais en revanche, donc ça me plaisait bien comme challenge, si je puis dire, de trouver les mots. Mais en revanche, je voulais qu'il y ait justement ce que j'avais vu à 15 ans en couverture.
Donc Judith cadrée.
Cadrée,
seulement sur elle.
sans la décapitation. Et la solution chimique à laquelle j'ai eu recours, c'est d'écrire la nuit. Ça m'était plus arrivé depuis très longtemps. J'étais dans le noir, j'étais dans ce fond noir. Et tout ce que j'avais pu ingurgiter comme livre sur le Caravage, qui était autour de moi, en italien, en français, se mettait à se dissoudre, eux aussi, dans la pénombre. Et je cherchais, au fur et à mesure, quelque chose dont il faut bien dire que c'était quelque chose de spirituel. Enfin, voilà, ça a été une quête qui m'a mené de tableau en tableau, tout en redisant l'aventure chaotique du Caravage, vers, je sais pas, vers le secret de l'âme, peut-être.
Et de la solitude aussi, parce que vous avez choisi d'intituler votre livre « La solitude Caravage ». Pour quelle raison, Yannick Hennel ?
Mais je pense qu'il y a un point en chacun de nous, que moi j'appelle le point de solitude, enfin, ou la solitude elle-même, que Duras s'appelait l'intraitable, il y a un point en chacun de nous qui est irréductible, où la société n'a pas prise, ou même peut-être l'amitié et l'amour n'ont pas prise. Un lieu très, très âpre, et pourtant qu'on aime plus que tout. Un lieu qui peut-être, à l'instant de la mort, devient notre lieu, voyez, celui dont personne n'aura jamais vu la face, un peu comme le trou, un peu comme l'entaille dans le corps du Christ vers lequel le doigt de saint Thomas va. Et voilà, j'ai imaginé qu'il y avait ce point de solitude en chacun et que le Caravage habitait vraiment là.
Et ça peut pas être aussi le point de la plus grande douceur, justement, de la chose la plus secrète et la plus cachée en chacun de nous?
Oui, j'ai parlé d'âpreté, mais si c'était seulement âpre, j'aimerais pas tant ce point. C'est aussi le lieu, peut-être le repos en Égypte que le Caravage a peint, où la Vierge est si belle. Peut-être que ce repos en Égypte, si on l'intériorise, ce serait ça, voilà. C'est ce point de solitude où on fuit quelque chose tout en ignorant qu'on a trouvé autre chose, d'encore plus beau, un autre pays, voilà.
Le Caravage, on l'a beaucoup haï de son vivant, par sa personnalité, probablement aussi par ce qu'il y avait de choquant dans sa peinture. Aujourd'hui, est-ce que vous avez l'impression qu'il est devenu une telle référence, qu'il a imprégné à ce point la culture occidentale, qu'il est aujourd'hui aimé, ou est-ce que regarder le Caravage encore aujourd'hui, ça provoque des sentiments tellement violents que inconsciemment, beaucoup de gens se trouvent gênés par sa peinture?
Oh ben, je pense que toute grande peinture est tranchante, enfin, nous fait pas forcément du bien. mais bon, incontestablement, le Caravage est maintenant complètement reconnu et aimé. Enfin, en témoigne l'exposition à Jacques Marandré, qui était très belle et qui proposait 10 tableaux. J'ai vu, moi, je suis allé 3-4 fois, j'ai vu les réactions des gens. Effectivement, face à Judith, il y a notamment les hommes avaient un regard très ambigu, qui était aussi le mien d'ailleurs. Il trouvait cette femme merveilleusement offerte, et en même temps, il y avait une crainte sacrée là. presque un effroi devant ce tableau. Je pense au très beau livre de Pascal Quignard, Le sexe et l'effroi. On est vraiment dans ce genre d'expérience. Je regrette que ni Freud ni Georges Bataille aient pu accéder au tableau du Caravage. Je pense qu'ils ne les ont pas vus. Enfin, on était encore dans le déblaiement de son œuvre. Mais oui, le Caravage, c'est choquant. Et c'est beau que ce soit choquant. Et c'est, voilà, je pense qu'on ne peut que l'aimer aussi.
Merci beaucoup Yannick Enel.
Merci.
Votre livre La Solitude Caravage est publié par les éditions Fayard. On peut également rappeler que vous avez reçu le prix Médicis en 2017 pour Tiens ferme ta couronne aux éditions Gallimard. C'était La Compagnie des auteurs, une émission de Didier Pinot, Anne-Vanessa Prévost, Laurence Malonda, Laurence Genepin, Garance Mazelier et Florent Bujon. Demain, c'est Manu Farine que vous retrouverez pour La Compagnie des poètes. Et en ce qui nous concerne, je vous dis à lundi pour une nouvelle série sur deux écrivains américains. Nous reviendrons sur la vie et l'œuvre de Tom Wolfe d'abord, puis de Bret Easton Ellis. En attendant, c'est l'heure de la poésie sur France Culture, celle que vous propose comme chaque jour Jacques Bonafé.
Bonjour, bonjour la compagnie. Est-il possible, là, dans ces récentes métamorphoses, est-il possible de faire poème de notre monde ? Théorème de la nature de Jean-Patrice Courtois nous livre, nous chante ses réponses. Théorème de la nature. La jacinthe d'eau, le cadmium, le strontium, l'algue porphyra, le minuscule rotifère, organisme de nourriture des crabes d'eau, le manganèse, le septième continent plastique, les îles artificielles, les fleuves et les rivières, les mangroves, les 435 réacteurs nucléaires, la danse de la vache des héréros et leurs costumes couleurs en tissus coloniaux retaillés pour une langue syntaxe, leurs voisins, les namas, les polypes coralliens, les arbres urbains, les arbres forestiers, les herbes plantes de bord de route en surconsommation de CO2, les êtres manifestations concrétions, les entités hétérogènes entre elles et à elles-mêmes à force d'y être forcées, tous existent au titre de résidus de la politique. Ouh ! À une autre page, la nature fait de la politique parce qu'elle n'existe pas. Et la nature ultra-politique de la nature résulte inévitablement de sa non-existence comme nature ultra-naturelle. Et page 10, tu vas le dédicacer à Alain Prochian, souvenir des pièces de théâtre de Jean-François Perret. La génétique, combien de clics pendant qu'on parle ? Un clic, une modification, une base nucléide, une seule, base validée, clic, validation. Longue suite ensuite, raisonnée, bien sûr, pour un encore meilleur bien d'intention, long futur de gants cliquant avec des mains dedans en fin de parcours, depuis le cerveau, puis suite recommençante de mains par gants interposés pour clic. La différence entre le cerveau et le vivant n'est pas réduite, mais augmentée par les gestes neuronaux. Eux, en débranchés rationnels, mettent en marche les mains commandantes du nombre réalisé en acte. Et, comme poème final, comment nommer ce monde, comment le décrire ? Page 116, il faudrait les odeurs de mort, il faudrait, masquant celles de l'enfance, il faudrait la recherche de la rivière de remplacement, les volcans qui lâchent le vitriol, qui creusent jusqu'aux racines des arbres. Il faudrait le soufre dans les rivières et l'odorat des saumons soqueils qui perçoivent les cendres dans les fleuves. Il faudrait la cascade géante en mur d'eau infranchissable. Il faudrait les requins saumons, les goélands arctiques, les ours grizzlies qui mangent le cerveau et la peau huileuse sans prendre la chair moins grasse. Il faudrait la découverte des bras morts de rivière au calme. Il faudrait le volcan gris, l'Alaska de l'image et la métaphore curatrice.
Merci Jacques Bonafé.